Donc, merci beaucoup hein, pour cette invitation et à participer à ce colloque. Donc, voilà, je vais vous parler de ce sujet que j'ai titré ici autour de HBO et de la représentation sexuelle au-delà de 40 ans. Alors, vous connaissez peut-être ce fameux slogan « It's not TV, it's HBO » qui a été inauguré en 1996, slogan provocateur qui a fortement contribué à passer le mot d'une volonté, hein, donc de la part des dirigeants de cette chaîne du câble premium américain, HBO, c'est-à-dire home box office, volonté de se positionner, se repositionner même stratégiquement en mettant l'accent sur des séries originales, vraiment, vraiment originales. Citons alors Sex and the City, Six Feet Under, The Wire, Game of Thrones, Girls, True Detective ou encore Westworld, et puis bien d'autres séries sur cette chaîne. Le retentissement de la campagne de communication de la chaîne a été tel que son fameux slogan a connu un certain nombre de détournements parodiques, dont le sarcastique It's not TV, it's porn, bien connu. Démarcation par le sexe, volonté d'aguicher le public en versant délibérément dans l'explicite, la relation trouble et parfois mal perçue qu'entretient HBO avec le sexe lui a assurément permis de se faire une réputation qui dépasse les frontières américaines. Alors, les questions que je voulais vous poser, cette relation s'applique-t-elle aux personnages de fiction et à leurs interprètes ayant dépassé la barrière, entre guillemets, fatidique des 40 ans? Autre question, peut-on affirmer qu'à travers ces séries originales, l'effort de démarcation entrepris par HBO dépasse les catégories plus confortables, là aussi entre guillemets, que constituent les jeunes adultes et les trentenaires? Pour répondre à ces questions, je me concentrerai sur les séries produites par la chaîne aux États-Unis uniquement au cours des 2 dernières années, en les abordant d'un point de vue à la fois quantitatif et qualitatif. En me fondant sur un recensement personnel de l'ensemble des représentations de nudité et de sexe dans les séries de HBO durant la période que je viens de vous montrer, je commencerai par tirer les principaux enseignements relatifs aux personnages entrés dans ce que l'on qualifie communément de troisième âge. Les seniors se montrent-ils actifs sexuellement? Leur nudité est-elle exposée à l'écran? L'allongement de l'espérance de vie se traduit-il par une extension fictionnelle de leur libido? Quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre. À partir de ces premiers constats, je me concentrerai sur une catégorie intermédiaire, plus visible et active sexuellement sur HBO, celle des quadragénaires et quinquagénaires, 40 ans et plus. À quelles pratiques sexuelles ces derniers s'adonnent-ils, toujours en matière de fiction? Parviennent-ils à tirer profit de leur expérience pour maîtriser leur plaisir? Leur sexualité confirme-t-elle la proposition de Michel Foucault, selon laquelle, je le cite, il faut sans doute abandonner l'hypothèse que les sociétés industrielles modernes ont inauguré sur le sexe un âge de répression accrue. Donc Foucault dénie cette théorie de la répression. Je conclurai cette communication en comparant les cas de deux actrices renommées ayant tenu à 2 reprises le rôle principal d'une mini-série de HBO, à savoir Nicole Kidman dans Big Little Lies en 2017 et The Undoing en 2020, c'est très récent, et puis Kate Winslet dans Mildred Pierce en 2011 et Mare of Easttown en 2021, encore plus récent. Autre question, quel rapport au vieillissement et à l'altération subséquente de leur visage et de leur corps ces deux stars entretiennent-elles? À défaut de nous livrer la vérité d'un diffuseur, de tels dilemmes sont à même, je pense, de nous renseigner sur les ambivalences et les tiraillements des chaînes américaines de l'ère moderne, même celles qui prétendent ne pas faire de la télévision, pour reprendre le fameux slogan de HBO. Ces 2 dernières années ont constitué une période de grand chambardement pour HBO, entre les suites du mouvement MeToo, la pandémie de Covid-19, l'effervescence du marché mondial du streaming, et puis le rachat de son propriétaire, Time Warner, par l'opérateur de télécommunication AT&T. Ce contexte tendu a vu HBO diffuser entre août 2019 et août 2021 31 séries originales, nouvelles ou déjà en cours de production, pour un total de 285 épisodes. Cela constitue une forte augmentation en regard des 75 séries diffusées par la chaîne au cours des 22 années précédentes. 75 en 22 ans et là 31 sur 2 ans. Sans la pandémie de Covid-19, cette hausse aurait sans doute été encore plus significative, même si la direction de la chaîne assure tenir à éviter tout effet de saturation, qu'ils ne veulent pas multiplier les séries dans une certaine mesure. En termes de représentation corporelle et sexuelle, le nombre d'occurrences s'est stabilisé sur HBO autour de 7 par saison, ce qui est finalement pas énorme, je trouve, en ne prenant en compte que les séries originales de la chaîne. Il est cependant passé de 0,6 à 0,8 par épisode, ça fait quand même moins d'une occurrence par épisode, ce qui signifie que la nudité et le sexe sont davantage visibles sur HBO aujourd'hui qu'au cours des deux décennies précédentes. Donc il y a quand même une augmentation. Pour une chaîne ayant déjà la réputation de verser régulièrement dans l'explicite, l'heure n'est donc pas à renoncer à la quête de jubilation esthétique défendue par Vladimir Nabokov au milieu du siècle dernier. Alors, les données de 2019 à 2021 assoient plusieurs tendances déjà relevées à l'étude des séries de HBO diffusées entre 1997 et 2019. C'était l'objet de ma thèse. Alors, prédominance de l'hétérosexualité, toujours, par le biais de pénétration vaginale en missionnaire, ça reste très classique. Surexposition de la jouissance masculine, précipitation du passage à l'acte sexuel, précaution vis-à-vis de la nudité frontale féminine, et puis marginalité du sexe explicite, à rebours de la réputation désinhibée de la chaîne. Ça, ce sont des tendances qu'on constate toujours aujourd'hui, de manière générale. Alors, je pose la question, cette stabilité des représentations se confirme-t-elle quand on opère une distinction entre les catégories d'âge des corps sexuels exposés à l'écran? D'entre toutes, la catégorie la plus invisible en termes de nudité et de sexe reste sans conteste et sans grande surprise celle des seniors à partir de 60 ans. Donc, c'est la colonne en bleu ici, on voit seulement deux occurrences. Aux 6 occurrences de la période précédente ne viennent s'ajouter que 2 nouvelles. Celles-ci n'ont en outre rien de très avantageux. L'une se réduit à un graffiti obscène, donc c'est à gauche, représentant une paire de seins tombant avec la mention « Viens et tête les nichons de Betty », donc un graffiti assez injurieux, dans « Mare of Easttown ». Et l'autre, plus accablante encore, montre un senior sénile se masturber pendant la projection dans le salon commun de la maison de retraite où il passe ses vieux jours, d'un film classique hollywoodien, avec Irene Dunne parmi ses premiers rôles. Donc c'est dans « Mrs. Fletcher », épisode 2. Cet attentat à la pudeur lui vaudra d'être renvoyé de l'établissement, comme si au royaume des croulants, entre guillemets, comme à la télévision américaine, ne pouvait être prise en charge le fait que la libido du troisième âge soit encore active. Donc ça, ce sont les deux seules occurrences pour les seniors sur ces 2 années écoulées. Si Ariane Bovillard avance, je la cite, que la vieillesse, qui n'est pas toujours synonyme de décrépitude avancée, serait par principe une sortie, parfois une expulsion du travail salarié, il peut en être dit autant, pardon, de la sexualité de cette population vis-à-vis de HBO. En dépit de toutes les zones de turbulence traversées par HBO au cours des 2 dernières années, l'heure n'est pas au reniement des choix stratégiques qui ont permis à la chaîne de bâtir sa réputation de contre-modèle télévisuel, ce n'est pas de la télé, misant sur l'audace et l'innovation. Cependant, en regard des chiffres précédemment évoqués, un certain rééquilibrage des représentations sexuelles semble à l'œuvre, même si évidemment il demande à être confirmé dans les années à venir. Proportionnellement, entre 2019 et 2021, les personnages fictionnels âgés de 40 à 60 ans se sont en effet vus bien plus sexualisés par la chaîne que leurs homologues des 2 décennies précédentes. Donc, il y a vraiment sur cette tranche d'âge-là une focalisation qu'il faut effectuer. Donc, 36 occurrences sur 2 ans contre 51 sur 22 ans, qui est un différentiel très important. Il convient donc d'analyser les modalités d'exposition et les pratiques sexuelles de cette population, c'est ce que je vais faire ici, qui de longue date est privée de libido par la télévision américaine. Je me concentrerai ici sur les relations entre quadragénaires et quinquagénaires, en précisant que les 31 occurrences précédemment avancées de différence d'âge, relations sexuelles entre des partenaires ayant au moins une décennie d'écart, ces occurrences reproduisent dans leur grande majorité le schéma patriarcal d'un homme mûr couchant avec une femme plus jeune. C'est vraiment très souvent comme ça que c'est représenté. Une vision d'ensemble nous révèle sans grande surprise, là encore, que la sexualité des quadragénaires et quinquagénaires demeure extrêmement hétéronormée et masculino-centrée sur HBO, sans laisser de véritable place à ce que Michel Foucault nomme les sexualités périphériques. quelques graphiques pour l'illustrer. À de rares exceptions près, les relations sont hétérosexuelles. Je vais passer assez vite sur les graphiques. À chaque fois, c'est la colonne de gauche qui ressort. Entre blancs, très principalement, et consiste en des pénétrations vaginales. Là aussi, c'est la colonne de gauche. Je pourrais revenir sur ces graphiques par la suite. Par missionnaire, c'est aussi la position la plus pratiquée. Ne sont à relever que deux occurrences d'andromaque, on le voit sur ce graphique. Donc, position qui voit la femme faire l'amour à califourchon sur son partenaire allongé sur le dos, au sein d'un panorama de positions sexuelles, somme toute, très restreint pour cette catégorie d'âge. L'expérience qu'ils ont accumulée au fil des ans n'empêche en outre pas les partenaires de souvent négliger les préliminaires. En général, la relation sexuelle qui nous est montrée débute in medias res, c'est la colonne de gauche, sans que nous assistions littéralement au passage à l'acte, ou elle se fonde sur des préliminaires plutôt brefs. Il n'est pas rare que la précipitation l'emporte sur l'appréciation de l'instant présent, ce qui là encore prend à rebours l'idée, forcément généralisatrice, d'une sexualité plus adulte, donc plus à l'écoute de son corps et de celui de son ou de sa partenaire. Une seule occurrence de violence sexuelle est à relever, on le voit aussi sur ce graphique à tout à droite. Et encore, elle est toute relative, puisqu'il s'agit de fessées que s'auto-administre Eve Fletcher dans la mini-série Mrs. Fletcher, entièrement réalisée par des femmes, qui se penchent sur l'éveil sexuel d'une mère de famille quadragénaire, qu'on voit ici à l'écran, divorcée et bien décidée à rompre la monotonie de son chaste quotidien. Sa tentative de reproduire les gestes sadomasochistes d'une vidéo semi-pornographique qu'elle vient de regarder sur son ordinateur portable, cette tentative se révèle toutefois peu concluante. Quant à la violence de l'acte en question, elle est tout à fait volontaire et produite à des fins comiques. Ce n'est pas du tout scabreux, là, en l'occurrence. Corollaire ou non de cette tendance à négliger les préliminaires et à précipiter l'acte sexuel, la plupart des ébats entre partenaires de 40 ans et plus s'interrompent avant d'avoir mené à la jouissance, comme on peut le voir également ici. Les partenaires sexuels ayant franchi la barre des 40 ans ne recourent en outre quasiment jamais à des accessoires de type sextoy pour pimenter leur rapport et accéder au plaisir. Seule la comédie High Maintenance montre dans son avant-dernier épisode intitulé Solo, une femme trans faire l'amour avec sa compagne à l'aide d'un gode-ceinture à gauche ici, puis seule dans sa chambre se masturber avec un vibromasseur, c'est la photo de droite. Qu'en est-il de l'exposition corporelle des partenaires de plus de 40 ans? En premier lieu, il est à noter que les rapports sexuels de cette population ne nous sont jamais montrés de façon explicite, jamais, sur ce corpus en tout cas. La suggestion est systématiquement de mise, que les parties intimes soient masquées, hors champ, ou que la scène soit coupée avant de basculer dans un régime plus explicite. Donc ici, vous n'avez pas de colonne explicite, sexe explicite. Toute scène confondue, avec ou sans rapport sexuel, la nudité frontale se révèle pour sa part bien plus masculine que féminine. Donc ici, c'est la partie masculine à gauche et l'équivalent féminin. Les parties intimes des hommes, pardon, s'affichent presque autant que les seins des femmes en cumulé, ce qui témoigne d'une volonté de contrer la surexploitation du corps féminin à des fins purement attractionnelles. Rares sont cependant les acteurs et actrices de plus de 40 ans à prendre le risque de s'exposer dans le plus simple appareil, surtout à l'ère de la captation et de l'hypercirculation instantanée des images. Citons tout de même le cas de Catherine Hahn, que l'on peut voir nager nue dans le deuxième épisode de Mrs. Fletcher, mini-série passée plutôt inaperçue, alors que décidément, elle a permis à HBO d'explorer de nouveaux terrains de jeu en diversifiant ses modalités de représentation. Entre deux blockbusters hollywoodiens, Catherine Hahn, aujourd'hui âgée de 48 ans, et de ses actrices qui assument leur âge et leur corps, dès lors que le contexte fictionnel et l'environnement de travail s'y prêtent. Alors, parmi tous les facteurs exposés pour caractériser les représentations corporelles et sexuelles d'une chaîne de télévision, rarement est évoqué, et je finirai par ça, le rôle qu'ont à jouer les interprètes eux-mêmes, ou elles-mêmes en l'occurrence. À ce titre, j'aimerais conclure cette communication en comparant les cas de Nicole Kidman et de Kate Winslet, qui ont en commun d'avoir subi sur HBO les affres fictionnelles d'une nudité frontale féminine insolente de jeunesse, de vigueur, d'assurance, s'exposant sous leurs yeux de façon aussi tangible que provocante. Dans The Undoing, le premier épisode, Grace Fraser, qui est jouée par Nicole Kidman, 53 ans au moment du tournage, Grace achève de se rhabiller dans le vestiaire de son club de fitness quand son regard se retrouve, entre guillemets, plaqué contre le corps d'Elena Alves, jouée par Mathilda De Angelis, 24 ans, debout face à elle, entièrement nue, le sexe au niveau de son visage. Reflétant le point de vue de Grace, un panoramique subjectif de bas en haut renforce le sentiment de gêne éprouvé par la quinquagénaire, sans voix face à une telle impudeur. Par la suite, son mari aura une liaison doublement fatale avec Elena, qui conduira cette dernière, comme le couple de Grace, à leur perte. Dans la série éponyme, Mildred Pierce, qui est jouée par Kate Winslet, 45 ans, est confrontée au même type d'agression sexuelle, au sens haptique du terme, quand elle découvre que sa fille Vida, qui est jouée par Evan Rachel Wood, 23 ans à l'époque, a une liaison avec son compagnon Monty Berragon, c'est dans l'épisode 5. Sous les yeux de Mildred, Vida se lève du lit, entièrement nue, pour se coiffer devant un miroir en des gestes délibérément lents, affectés, sadiques, qui mènent la mère outragée aux confins de la folie. Contrairement à Grace Fraser dans The Undoing, Mildred ne reste cependant pas inerte, puisqu'elle tente impulsivement d'étrangler sa fille en poussant des cris hystériques. La jeune femme y perdra la voix et tout espoir de poursuivre sa carrière de cantatrice. Si Grace et Mildred ont des réactions diamétralement opposées face à l'outrecuidance d'une jeunesse qui s'exhibe impunément devant elles et s'approprie leurs amants, réduisant de facto ces derniers à, entre guillemets, de vieux beaux, délaissant leur compagne pour une partenaire plus jeune, il peut en être dit autant des deux actrices qui leur prêtent leurs traits et leur chair. De Big Little Lies à The Undoing, le corps de Nicole Kidman se voit désexualisé, à l'exception d'une scène de sexe nocturne plongeant Grace dans un effroi transi et stoïque, comme on le voit ici. C'est dans l'épisode 1. Quant à son faciès, il s'exonère avec un soin chirurgical, si je peux me permettre, depuis plus d'une décennie, des, je cite, 1000 petites rides qui transforment les visages en paysages et nous initient à la plus riche des géographies humaines. Puisque, toujours selon les mots d'Edgar Morin, je le cite, « l'exigence de beauté est en même temps une exigence de jeunesse », Kidman, dont la trajectoire oscille précisément entre celle d'un kid et d'un man, renvoie l'image d'une actrice en quête de jeunesse éternelle et conséquemment de cette longévité si souvent dévolue aux hommes dans les milieux artistiques. Pour sa part, Kate Winslet embrasse les effets du temps sur son visage et nous allons le voir sur son corps, sans pour autant renoncer à incarner des femmes désirables et sexualisées. Dans le premier épisode de Mare of Easttown, on assiste à des ébats sexuels entre Mare Sheehan et Richard Ryan, un séduisant écrivain interprété par Guy Pearce, celui-là même qui jouait son amant adultérin dans Mildred Pierce. Après l'avoir rencontré dans un bar, Mare chevauche Richard en Andromaque sur un canapé, c'est la photo en bas à droite, tout en se déshabillant et en scandant bruyamment son plaisir. La scène est brève et ne dépasse pas le stade de la suggestion, mais elle laisse tout de même voir le corps de Winslet sans faux-semblant. Alors, dans un portrait du New York Times, Winslet explique en effet avoir rejeté intempestivement la proposition de son réalisateur, Craig Zobel, de couper au montage les images montrant ses, entre guillemets, poignées d'amour. De même, elle a renvoyé à deux reprises l'affiche promotionnelle de la série à ses concepteurs, la jugeant trop retouchée numériquement et arguant qu'elle savait parfaitement combien elle avait de pas de doigts et qu'elle ne tenait pas à ce que celle-ci soit cachée aux yeux du public. Au-delà de son apparence personnelle, il ressort des propos de Winslet une quête d'authenticité, une volonté de se montrer sincère avec son double fictionnel. Elle ajoute en ce sens, je la cite, « c'est une femme à part entière, imparfaite, avec un corps et un visage qui suivent le cours de son âge, de sa vie et de ses origines. Je trouve ce type de personnage trop rare. » Une telle vision du vieillissement paraît si éloignée de celle d'une Nicole Kidman ou d'autres actrices vedettes ayant poursuivi leur carrière après 40 ans. On peut citer Angelina Jolie, Jennifer Aniston, côté français Emmanuel Béard ou Isabella Gianni. Si éloignée qu'elle en vient à prendre une tournure exceptionnelle. L'anodin devient parfois si marginal que sa simple évocation nous apparaît, paradoxalement, comme un tour de force. C'est que même chez HBO, chaîne qui prétend échapper au modus operandi du tout venant télévisuel, même chez HBO, donc l'oblitération des marques du vieillissement est si ancrée dans les mentalités que réalisateurs comme publicistes n'imaginent pas que les images qui passent entre leurs mains puissent en conserver la moindre trace. Cependant, rien n'empêche de telles mentalités d'évoluer, je pense. Comme le signale Gwenaëlle Legras, à Hollywood, les actrices de renom et de tous les âges sont de plus en plus nombreuses à s'insurger contre ces injonctions systématiques à rester jeunes et séduisantes pour continuer à décrocher des rôles d'envergure. L'exemple de Kate Winslet tente à le démontrer. Ce n'est pas tant la vieillesse qui est un naufrage que le refus de l'accepter et de vivre avec, si possible, sexuellement. Voilà, je vous remercie pour votre attention.